Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinexplore. Tous les derniers mercredis du mois, je vous propose de passer de l'autre côté de l'écran avec moi et de m'accompagner dans mes rencontres avec les professionnels qui font l'industrie du cinéma, de près ou de loin. Ils peuvent être directrices de cinémathèque, passionnées, travailler au financement des films, festivalières ou festivaliers, scénaristes ou même youtubeurs cinéma. Ils sont quoi qu'il en soit des actrices de cette industrie et ont forcément des choses à raconter. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai envie de les écouter toutes ces choses. Troisième épisode, et aujourd'hui, je rencontre Marc Ollery, distributeur indépendant chez Lost Film, société qu'il a créée en 2009. Quelque part, je prolonge un peu la discussion du mois dernier, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Marc à l'Utopia lors de la projection de The Wicker Man, film qu'il a littéralement déterré et qui est une vraie rareté. On a parlé de son travail, bien sûr, mais aussi beaucoup du processus, de comment les films viennent à lui, comment il les choisit, les accompagne, les présente et les défend. Une discussion riche, dense, bourrée de digressions comme je les aime, vous commencez à vous en rendre compte. Cet entretien a été enregistré le 26 novembre à Paris, sur une terrasse de café, d'où le bruit de fond pour lequel je vous présente mes plus plates excuses. Je vous promets néanmoins qu'une fois les premières minutes écoutées, vous ne l'entendrez plus tellement Marc Ollery est une personne passionnée qui transmet cette passion comme personne. Bonne écoute.
Ok, donc déjà, bonjour Marc.
Bonjour.
Merci du temps que tu m'accordes, c'est très gentil, très aimable à toi. Est-ce que tu acceptes de te présenter pour les gens qui ne te connaîtront pas
D'accord, bah écoute, je viens d'avoir 52 ans. Ma vie s'articule beaucoup autour du cinéma depuis une grosse trentaine d'années. Disons que j'aurais dû faire une maîtrise de cinéma au début des années 90, quand j'ai commencé à travailler aussi dans un cinéma qui s'appelle le Max Linder à Paris.
Ouais.
Donc, monde du travail, d'autres horaires, participer à la vie d'une salle de cinéma et une maîtrise que je devais faire sur David Lynch que je n'ai jamais faite. Parce que aussi, un des directeurs de cette salle a commencé à préparer son premier film de cinéma qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir les parents communistes » réalisé par Jean-Jacques Zilberman. Et il m'a proposé d'être stagiaire sur ce film. Donc j'ai découvert l'ambiance des tournages tout en travaillant à l'époque dans cette salle. Donc j'ai pris les congés sans solde. Et puis j'ai découvert ça avec des yeux un peu ébahis, quoi. C'était un premier film avec Josiane Balasco. Donc voilà, j'étais stagiaire régie. Je faisais un petit peu toutes les basses besognes, mais je voyais de près et de loin le plateau, l'organisation. Parce que les régisseurs, c'est un peu toute la logistique qui va de aller chercher les comédiens, faire les sandwichs, faire les courses, aller chercher de la pellicule quand il en faut, du matériel, un rail de travelling s'il en manque. C'est un peu le régisseur, c'est l'homme à tout faire. Et jusqu'au soir, amener les rushs 35 mm au laboratoire pour qu'ils soient développés. Donc ça fait des grosses journées, mais avec une vision un peu globale de ce qu'est un film et un tournage. Et donc c'est vrai que moi, ça a un peu changé et modifié toute ma vie. Je crois que c'était un changement. Et puis j'ai poursuivi. Après, à la fin de ce film, j'ai repris mon petit boulot d'étudiant au Max Linder, avec un cinéma donc sur les grands boulevards qui présente toujours des films à part, qu'un seul écran, des fois des très belles soirées, une très belle programmation, des exclusivités. Enfin voilà, moi je me rappelle de très beaux moments, par exemple quand on sortait à l'époque, c'était vraiment, ça se fait plus du tout, dans une seule salle un film comme La Belle Noiseuse de Jacques Rivette en version la première version, c'était la version longue qui existe. Ou voir la naissance aussi de certains réalisateurs quand Caro et Jeunet sortent Délicatessen et que d'un seul coup on expose des objets du film dans la salle. Donc voilà, et c'était toujours un petit événement sur certaines sorties. Et tout en travaillant dans cette salle, j'ai continué aussi de temps en temps de prendre quelques congés pour travailler sur des films. Jusqu'au moment où après j'ai aussi arrêté donc ce petit boulot pour me dire maintenant je vais essayer de travailler sur des tournages, alors avec ce point de suspension de l'intermittent, c'est-à-dire qu'un tournage c'est un contrat réduit, c'est plusieurs mois ou semaines de tournage et après tout s'arrête.
Ouais.
Donc il y a toujours cette période d'attente et c'est vrai que depuis 30 ans c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est le film d'après et au milieu de tout ça il y a eu une première aventure dans la distribution, parce qu'en fait j'ai deux casquettes.
C'est ce que j'allais te demander. Moi je t'ai connu à travers ce rôle de distributeur, donc à travers un film que tu distribuais qui a été projeté au cinéma Utopia à Bordeaux, qui est The Wicker Man. On va attendre que le camion passe. Mais et après, j'ai appris, en discutant avec toi le soir même d'ailleurs, que tu étais aussi accessoiriste, si je ne me trompe pas. Donc, comment finalement tu arrives, en étant accessoiriste, travaillant sur les plateaux, comment tu arrives à devenir distributeur, quoi? Comment cette découverte se fait? Comment ce travail...
Alors, moi, c'est vrai que tout à l'heure, je commençais par le début, qui était un peu long, en disant que j'étais étudiant en cinéma. Alors, étudiant en cinéma, c'était à la fac. Hein. Mmh. Et la plupart de mes copains ont eu des débouchés autour... soit de cinémathèque ou de la distribution.
Ouais.
Et un de mes meilleurs amis a créé sa société de distribution. Un autre était programmateur de classiques japonais pendant très longtemps. Et j'étais un peu conscient de cette partie-là du secteur. Et il y a un moment aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais entre les moments de pas de travail et d'attente du prochain tournage. Et à un moment, j'ai rejoint d'autres camarades qui avaient déjà eux aussi un premier métier, qui ont créé une société de distribution de films de patrimoine.
Oui.
Donc c'était une première expérience avec une société qui s'appelle Madadayo Film. Mmh. Et on fonctionnait chacun de façon collégiale. Chacun amenait un peu sa pierre à l'édifice, travaillait, faisait des petites tâches dans la sortie des films et proposait aussi des fois des choix de films. Et moi, il y a un moment, j'avais proposé l'idée et on avait sorti sur deux copies 35 mm un film que j'aimais beaucoup, complètement à part, un ovni. C'était déjà un Lost Film parce que ma société s'appelle Lost Film. Mmh. Donc c'est des films un peu à part, perdus, maudit ou oublié, que j'ai envie de remettre en lumière. Et là, le film que j'avais proposé avec Madadayo, c'était un film qui s'appelle Le Monde, la chair et le diable, avec Harry Belafonte. Mm-hmm. Un film fantastique, un peu autour des années 50, autour de la peur du nucléaire.
Ouais.
Et qui était un peu, déjà très proche d'un des prochains films que j'allais proposer avec Lost Film. C'est une histoire qui tourne autour du racisme, puisque c'est l'histoire d'Harry Belafonte qui se retrouve seul sur Terre, en fait. Donc le seul homme sur Terre est un noir. Et après cette expérience, cette sortie-là que j'avais proposée fortement, j'avais proposé un autre titre qui m'intriguait beaucoup, et qui était aussi une histoire comme ça autour du racisme et d'un noir qui était accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et c'était ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, l'adaptation du roman d'Harper Lee, Du silence et des ombres, okay. Film de Robert Mulligan. Mm-hmm. Et donc quand j'ai proposé comme film juste après celui-là, mes collègues à l'époque m'avaient dit « on va peut-être faire autre chose ». Ils avaient d'autres envies et puis ils sont partis sur l'idée de sortir un film complètement différent qui était Aguirre de Herzog.
Ouais.
Et moi, pareil, à ce moment-là, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais ? Ça me correspond moins c'est le moment où j'avais ma fille, donc il y avait plein de petits bouleversements. Je me suis dit, et puis plein de copains me disaient, Marc, crée ta société de distribution. Donc voilà, en 2009, j'ai créé Lost Film,
ouais.
Avec l'idée que j'allais ressortir Du silence et des ombres. Donc ce film avec Grégory Peck, avocat, qui va défendre un noir accusé à tort.
Ouais.
Et en fait, ça n'a pas été ma toute première sortie, parce que je me suis rendu compte que les copies étaient un petit peu chères de ce film Universal.
Ouais.
Et j'ai sorti alors un vrai film aussi rare, qui s'appelle La rumeur de William Wyler,
oui.
Avec Audrey Hepburn et Shirley MacLaine, un film complètement atypique que Wyler réalise juste après Ben-Hur, mm-hmm. Et qui met en scène deux amis, mm-hmm. qui tiennent un pensionnat pour jeunes filles et qui sont accusés à tort d'avoir une relation homosexuelle toutes les deux. Il y a une des gamines dans le pensionnat qui les voit s'enlacer un soir, elle vient d'être punie, c'est une petite peste, et le lendemain, elle essaie de raconter qu'elle les a vus s'embrasser. Alors que c'est pas vrai.
Ouais.
Mais en fait, quelque part, elle n'est pas si loin de la vérité, puisqu'on se rend compte qu'en effet, Shirley MacLaine pourrait avoir des sentiments pour son amie. Donc c'est
d'accord.
Un film qui tourne autour frontalement de l'homosexualité féminine, hein, chose qu'on n'abordait pas à Hollywood à l'époque,
ouais.
Mais sous le couvert de la rumeur.
Ok, c'est marrant qu'il y ait plusieurs films comme ça où ça part d'une injustice à part.
Hein. Ouais.
C'est rigolo qu'il y ait ce lien-là. Tu parlais des copies 35 mm qui sont un peu chères. Moi, ça m'intéresse, pour moi et puis pour les auditeurs, de comprendre, mm-hmm. comment ça fonctionne en fait.
Ouais.
Quand on décide, parce que là, on parle de films de patrimoine. Hein,
Bien sûr. Je
ne parle pas d'un distributeur classique qui va distribuer un long métrage qui viendrait de tourner avec Pierre Niney pour ne
ouais.
citer que lui. Quoi. On parle d'aller chercher du film de patrimoine. Donc, comment
ouais.
ça fonctionne ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la chronologie, quoi ?
En fait. Il faut se dire une chose, hein, un distributeur, c'est toujours le même métier, hein,
ouais.
C'est juste qu'on n'est pas avec les mêmes... Alors, on n'est pas né sous la même étoile, c'est sûr que ressortir Le Roi Lion pour Disney, voilà, c'est plus parlant que de ressortir Le Monde, la chair et le diable, on ne sait pas ce que c'est. Distributeur de patrimoine, c'est remettre en salle un film qui a déjà eu une première vie, qui est déjà sorti il y a quelques années. Et moi, ce que j'aime expliquer un peu pour les gens qui ne comprennent pas très bien le métier de distributeur dans l'économie du cinéma, c'est un petit peu comme un éditeur dans le livre. L'analogie, elle est assez simple pour tout le monde. Un livre, il existe parce qu'un romancier l'écrit, mais soit il reste chez lui, soit en effet à la fin, il faut qu'il soit publié. Et ça c'est le travail de l'éditeur, c'est-à-dire qu'il va acheter auprès de cet auteur un projet pour prendre en charge la fabrication du livre, mais aussi toute la commercialisation, la publicité. Et après, son travail aussi, c'est évidemment de le proposer soit dans une FNAC, un supermarché ou dans des petites librairies. Mmh. Un distributeur de cinéma, c'est pareil. Vous changez le livre par le film. Nous, donc, ce qu'il faut, c'est qu'on rachète les droits d'un film. Le film de patrimoine, il existe déjà, mais il a été produit par quelqu'un. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, de tout à l'heure sur Du silence et des ombres, c'est un film Universal. Donc, c'est une grande maison de production, une major américaine. Et le film, après, il faut le sortir dans plein de pays. Donc, il y a Universal aux États-Unis qui sort son film, mais après, qui va déléguer aussi la sortie à d'autres sociétés dans le monde. Et là, en l'occurrence, même pour un film de patrimoine qui ressort, moi, avec ma société Lost Film, je m'adresse à Universal ou quelqu'un qui représente cette société en leur demandant, voilà, est-ce que vous avez bien les droits du film ? Combien ça coûte pour utiliser, m'autoriser à exploiter le film en salle ? Mais je pourrais aussi demander l'exploitation pour la vidéo ou l'acheter aussi pour éventuellement le proposer à une chaîne de télévision. Et plus on demande en effet d'exploitation, enfin de type de médias ou de dérivés pour faire exister le film, plus le coût du contrat est cher. Pareil sur la durée en fait. Et donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé en 2009, on était encore en copie 35 mm. Donc il y a deux choses, c'est-à-dire que je vais m'adresser à ce qu'on appelle un ayant droit, qui représente le producteur du film, parce que ce producteur est peut-être mort ou cette société n'existe plus. Ouais. Là, c'est toujours Universal. Ouais. Et donc je signe un contrat où je paye d'abord ce qu'on appelle un minimum garanti pour des clauses de contrat, et puis ça augmente peut-être le forfait de départ pour investir, pour payer le film. Donc il y a cette somme de départ, et après il y a acheter une copie, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une copie 35 mm. Maintenant, si on doit acheter une copie numérique, le matériel existe ou pas. Mais c'est toujours la même chose parce qu'à l'époque, ressortir Du silence et des ombres, il fallait que quelque part, soit dans un laboratoire américain ou en Europe, parce qu'il y a aussi des éléments qui pouvaient être là, qu'il y ait des éléments négatifs ou internégatifs de qualité pour pouvoir tirer une copie neuve. On tire une copie neuve, mais d'après un élément existant.
Donc ta demande pourrait tout à fait être à la base d'un projet de restauration, par exemple.
Oui, par exemple, là, maintenant, donc depuis, on va dire, 2011, où l'ensemble des salles est vraiment basculé dans une projection numérique, il faut que ces films existent sous forme de fichiers, donc qu'ils aient été scannés dans les machines, pour qu'on en fasse une copie numérique. Donc maintenant, qui n'est plus des bobines de films qu'on assemble, mais un petit disque dur, comme tu as sur ton ordinateur. Et ça, il faut que ce travail existe, soit fait, et pareil, c'est-à-dire que ça a un coût. Et une fois de plus, ce coût, il est pris en charge par un ayant droit ou une maison de production qui veut investir parce qu'il pense en effet que ce film a un potentiel. Mais dans la réalité, c'est vrai que la chance qu'on a en France, c'est qu'en France, on a beaucoup de distributeurs qui ont envie de montrer ces films en salle de cinéma. Ouais. La plupart du temps, quand ces films sont restaurés, numérisés, le premier débouché dans le monde entier est le plus facile, c'est que derrière, ces films soient édités en DVD ou en Blu-ray.
Oui, c'est même la logique qui voudrait que...
Et assez souvent, on peut se dire qu'un film qu'on voit en magasin en Blu-ray, le matériel est suffisamment de bonne qualité pour qu'on puisse en faire une copie pour le cinéma. Mais voilà, il faut savoir en effet à qui s'adresser pour acheter les droits, négocier, et où est le matériel pour pouvoir le faire. Donc okay. C'est vrai que notre condition sine qua non maintenant de distributeur, mais c'est comme avant, parce que si par exemple, moi tu vois, j'ai ressorti un film de Robert Mulligan qui s'appelle Du silence et des ombres, un de ses plus grands succès, et c'est un film qu'on ne voit plus du tout du début des 70 qui s'appelle Un été 42, que ouais. Tout le monde voudrait voir.
Oui, j'aimerais bien voir.
Qu'un film Warner.
J'ai découvert moi par la musique de Michel Legrand, voilà. Et que j'ai trouvé incroyable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique ?
Et ce film qui est un peu mythique pour toute une génération de cinéphiles, d'exploitants, etc., et qui est passé à la télé à l'époque, maintenant, on est incapable de le montrer parce que le matériel qui existe, on ne peut pas tirer de copie 35 mm. Et le numériser, c'est pareil. Enfin, il y aura un travail plus lourd à faire, mais qui sera peut-être fait un jour par Warner. C'est un film ouais. Warner, c'est à eux de le faire. Ouais. Moi, Marc Olry, avec ma société Lostofine, leur demander de le faire. Ils ne vont pas dépenser de l'argent pour moi. Si c'est dans les tuyaux, parce que d'un seul coup, ça devient une priorité pour plein de raisons, hein, qu'on décide de sauver des films ou pas, ou d'autres, le matériel devient disponible. Je ne peux pas être, moi, à la
d'accord.
source
ouais.
Et, ou me l'offrir.
En fait, ma question, voilà, c'est ça. Ma question, elle portait plus là-dessus, puisque tu nous parles d'acheter des droits et d'acheter ça. Tu finances ces achats, parce que dans mon esprit, c'est très cher.
Oui. Pour donner une idée un peu générale, moi, par rapport à Lost Film et le passage donc du numérique, du 35 mm au numérique, faut se dire qu'il y a l'achat, en effet, de ce forfait pour exploiter un film. Maintenant, c'est plutôt une durée de 3 ans, parce que c'est vrai qu'ils raccourcissent les échéances. Et après, le matériel, le master numérique, il existe ou pas, quoi. Donc, on est dans une situation, s'il existe, où faire des copies, qui sont des duplications sur des petits disques durs, c'est plus du tout la même économie, c'est beaucoup moins cher que tirer des copies 35 mm. Ou moi, à l'époque, si tu veux, une copie, je crois que la première copie du Silence et des Ombres, sous-titrée, c'était au moins 5 000 € pièce, tu vois. Ouais.
Donc c'est-à-dire que tu payes 5 000 €, admettons, si c'est la fourchette base pour les droits, puis ensuite tu rajoutes 5 000 € pour chaque nouvelle copie.
Voilà.
Et sachant après, que tu vas quand même vouloir le faire tourner, ton film.
Et après, c'est que tu n'as pas encore dépensé un copec, j'ai envie de dire, sur faut faire une affiche, et payer un attaché de presse, etc. Donc moi, il y a ce coût de départ, et après, il y a le coût supplémentaire de tout ça, de faire exister le film, d'avoir des outils de promotion, etc.
Non, mais j'imagine qu'à 3 bobines, il voyage, quoi, le film.
Voilà, le film avait beaucoup voyagé, et si tu veux, dans les 2 premières années, je crois que j'avais presque été jusqu'à 20 000 entrées.
Ouais.
Et après, c'est un film qui a été numérisé, justement, c'est un film très important dans l'histoire américaine, et donc Universal l'a numérisé, a fait une très belle édition après Blu-ray. J'ai eu une copie numérique. Le film a regagné un dispositif scolaire qui s'appelle Collège au cinéma et a continué de tourner pour des séances scolaires.
Une troisième vie, presque.
Ouais, une troisième vie. Et là, je crois que dans l'histoire de Lost Film, tout cumulé, il a dépassé plus de 100 000 entrées. Quoi.
Ah ouais,
c'est un truc qu'on n'imagine pas. Et quand un jour, je me suis retourné là-dessus et j'ai essayé d'un peu de cumuler. Voilà. Alors moi, je ne suis pas très bon à tout calculer exactement. Souvent, on me demande, alors Marc, il te faut combien d'entrées pour qu'une sortie s'amortisse? Je ne fonctionne jamais comme ça. J'essaie de voir l'objectif, de faire des sorties de films raisonnables, parce que faut dépenser de l'argent, mais aussi être et encore plus maintenant, je veux dire, la période post-Covid est encore plus incertaine.
Oui, c'est clair.
Il faut faire en sorte, en fait, que le film existe et que ce soit pas non plus hors de prix, parce que, et après ça dépend des distributeurs, hein. Moi, j'ai des camarades qui font juste un flyer à 4 recto verso, qui reprennent la fiche d'origine avec derrière un dictionnaire du cinéma. Moi, j'essaie de mettre un peu plus les formes, d'autres aussi.
Oui, c'est le cas sur The Wicker Man, notamment, avec cette magnifique affiche.
Sur The Wicker Man, là, on s'est un peu lâché avec mon graphiste. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, quand je dis avec mon graphiste, c'est qu'on a fait plein de déclinaisons pour se faire plaisir et faire exister le film. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a la super belle surprise et les doigts de fée de Laurent Durieux, illustrateur belge, qui s'est penché sur mon berceau et qui m'a dit oui pour créer une nouvelle affiche.
Ouais, elle est superbe, cette affiche. Elle est magnifique. Je l'ai revue hier, j'étais à Potemkin, et elle est très très belle, quoi.
Eux aussi, voilà, c'est vrai que des sociétés comme Potemkin, Carlotta, les Acacia, Tamassa font un super beau travail pour remettre en selle des films qui sont des fois des grands classiques ou des ovnis, hein, à part. Et on a tous envie, voilà, qu'il y ait une belle bande-annonce, des fois des intervenants pour soutenir, présenter les films. Et puis, des fois, c'est un petit dépliant. D'autres qui font maintenant, Carlotta fait des très beaux petits livres pour accompagner la sortie. Donc, on essaie de prolonger l'envie, la curiosité du spectateur pour que, justement, ce film de patrimoine, il existe aussi fortement et autant qu'un nouveau film. Et c'est ça, je pense, un peu notre mot d'ordre et que moi, j'ai tout de suite eu envie de penser avec Lost Film, c'est que je sors un film comme si c'était nouveau. C'est-à-dire que quand on sort la rumeur de William Wyler, il y a 2 stars, c'est Audrey Hepburn et Shirley MacLaine, c'est le réalisateur de Ben-Hur, mais personne ne connaît le film. Et il y a un peu tout à créer, à inventer.
Ouais.
Alors le film, il existe, parce que quand tout à l'heure, je te racontais l'histoire et qu'on parle d'homosexualité féminine, pour toute la communauté gay et lesbienne, c'est un film qui est mythique,
ouais,
qu'on a pu voir, qui était à l'intérieur d'un documentaire, qui parlait aussi de tous les films comme ça hollywoodiens qui traitaient ce sujet-là. Mais faut toujours dépasser un cap en fait du premier spectateur de base. Et sur The Wickerman, ce qui a été fabuleux, c'est que le film existait dans l'esprit de plein de gens. Moi, j'ai découvert tardivement, hein, je sais pas tout sur tout, je suis cinéphile et curieux, mais il y a 2 ans, je l'avais toujours pas vu, quoi. Le film était mythique et invisible. Ouais. Et pour d'autres, il parlait beaucoup. Et en fait, cette affiche, d'un seul coup, c'est un vecteur qui représente le film et qui reste. Et c'est vrai que l'affiche de Laurent Durieux, bah, après, on a fait des objets autour, là, ce petit dépliant aussi, pour parler du film, des badges, un livret de chansons, la petite boîte d'allumettes. Enfin, on s'est dit, quand même, le film, voilà, il y a des fans, et ils vont être contents d'avoir ces objets-là. Ouais, c'est clair. Après, c'est un coût, hein. C'est vrai que c'est un surcoût de base.
On y revient. Le cinéma français, on le sait, il bénéficie de beaucoup d'aides, de subventions, tout ça. Toi, en tant que distributeur de films de patrimoine, donc ouais, indépendant et tout, est-ce que c'est quelque chose dont tu peux profiter? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet quand même de mettre le pied à l'étrier? Parce que sortir 25 000 euros comme ça pour une sortie, c'est compliqué, quoi.
En fait, le problème, c'est que on a un investissement fort de départ, c'est-à-dire que acheter les droits et payer la première copie, c'est presque 10 000 euros à investir tout de suite, avant que les premières retombées arrivent 6 mois plus tard. C'est entre ça, les entrées en salle et qu'on envoie une facture à la salle et qu'elle nous paye, il se passe beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'il y a ce qu'il ne faut pas oublier, c'est propre vraiment à la France et dans cette période toujours post-Covid hyper incertaine. On est quand même heureux et privilégié d'avoir un organisme comme le CNC et un système...
Donc le CNC, le Centre National du Cinéma, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas.
Qui gère un peu toute la filière, tout l'écosystème du cinéma et plus largement, parce que c'est aussi l'image animée, la télé. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que cet organisme d'État, grâce à des prélèvements sur chaque billet de cinéma, alimente un budget qui va pouvoir être réparti sur tous les acteurs, c'est-à-dire une salle de cinéma, un éditeur vidéo, un distributeur, un producteur, un réalisateur. Quand on parle de l'avance sur recette, ça veut dire qu'on propose un petit peu d'argent avant même que le film soit fabriqué à un producteur. On lui avance de l'argent pour qu'il commence à monter son projet. Et donc, c'est des commissions, c'est des dossiers à monter. Et en cinéma de patrimoine, c'est pareil. Il y a une aide spéciale au film de patrimoine. Donc, on propose un dossier. On va expliquer un petit peu un devis, diverses dépenses, les éléments qu'on va apporter pour la sortie du film. Et selon les décisions de la commission, et puis l'intérêt du film qu'on peut porter, à se dire « Ah oui, tiens, ça vaut le coup de le remettre en selle », ou si c'est un film qui ressort tous les 2 ans, le CNC va avoir moins de volonté de le soutenir, quoi. Il existe déjà, etc. Et puis si le travail est d'accompagnement, la pertinence du film, d'un sujet à défendre, etc., le CNC va l'aider plus ou moins fortement dans ses frais de sortie. Et ça, c'est valable en fait pour tous les cœurs de métier du cinéma. Ça, c'est vraiment capital de l'avoir en tête, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Alors attention, hein, moi, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que, voilà, on va préparer une sortie et on prépare un dossier. Et avant de sortir le film, on sait si le film va toucher une petite ou une belle subvention. Mais il n'empêche que derrière, la volonté première de nos films, c'est qu'ils rencontrent un public et des spectateurs. Et c'est vrai que moi, depuis 2009, un peu plus de 10 ans, la plupart de mes films ont été soutenus par le CNC, ont aussi rencontré plus ou moins bien leur public et se sont amortis. Mais au milieu de tout ça, des films très bénéficiaires, sur une douzaine de sorties, il n'y en a que 3-4, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut quand même aller chercher les spectateurs par la peau des fesses. Il y a des films plus ou moins forts et réceptifs. C'est vrai que moi, à quelques mois d'intervalle, en fin 2018, début 2019, tu vois, quand je ressors Yentl de Barbara Streisand, qui est un film qui, je pense, existe un peu dans l'esprit des gens, mais pour une génération de spectateurs. Et je sors quelques mois après Ragtime de Milos Forman. C'est des films presque, ils ont un an d'écart. Hein. Donc on est dans les années 80, mais on est avec des gens très identifiés, Barbara Streisand, Milos Forman. Mais c'est pas du tout la même chose comme vie pour les films, parce que j'ai l'impression que Yentl, c'est dur d'amorcer de l'envie, de la curiosité, sinon sur les convaincus. Ouais. Il y a des gens qui sont un peu touchés par « c'est une comédie musicale, il y a Barbara Streisand », ou ceux qui justement veulent se dire « mais non, surtout hors pas de question, je n'aime pas Barbara Streisand, ce qu'elle chante, ce qu'elle présente, etc. » Mais j'ai envie de dire, c'est comme quelqu'un qui me dirait « j'aime pas Alain Delon » et on lui propose d'aller voir
le samouraï.
Donc c'est sûr, il n'ira pas. Ouais. Mais et Ragtime, tu vois, contrairement, je pense que dans les deux cas, les gens ont une idée du film mais ne l'ont pas vu. Parce qu'une fois de plus, on est dans des films qui ne sont pas trop dans les radars, qui existent, mais Yentl, autant on trouvait facilement un DVD partout, mais voilà, c'est pas Chantons sous la pluie, c'est pas West Side Story, etc., dans l'esprit d'amateurs de comédie musicale ou un chèque demi. Et Ragtime, autant ben, on imagine ce qu'est le film et puis on connaît les autres, celui-là, il n'existe pas, il est invisible.
Ouais.
Mais, j'ai envie de dire, tout le monde a envie de le voir ou de le programmer sans l'avoir vu. L'autre, c'est plus difficile. Et en fait, c'est ça. C'est, quand je dis tout à l'heure, les films ne sont pas nés sous la même étoile. Voilà, il y a leur capital, leur valeur, surtout sur des classiques. Les gens les connaissent. Et puis tout le travail qu'on aura en plus à faire, à fournir pour les faire exister. Et après, pas nés sous la même étoile, bah, parce qu'on est des sociétés plus ou moins différentes. Hein, même dans le patrimoine, moi, je suis tout seul à m'en occuper. J'ai les reins pas forcément solides. Et puis il y a d'autres sociétés qui ont une plus grosse équipe, qui ont plus de moyens. Donc on fait le même métier, mais on n'est pas toujours dans la même catégorie.
Justement, j'avais une question là-dessus. Ta structure est très petite et même pour ainsi dire unipersonnelle. Comment ça se passe pour exister sur ce marché au milieu de maisons plus grandes? Je pense notamment des sociétés comme les Acacias ou Carlotta, qui sont quand même celles. Enfin, Carlotta qui est clairement celle qui vient à l'esprit quand on parle de patrimoine. Mais...
Carlotta, ils ont, on va dire, ils ont plusieurs départements à leur façon, puisqu'il y a le cinéma, la vidéo. Ils ont un service de presse aussi qui est intégré, et puis aussi par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Donc, moi, je fais un peu tout. C'est-à-dire que... Et puis, une équipe programmation, évidemment, parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Quand tout à l'heure, je parlais de l'éditeur de livres, et puis nous, l'éditeur de films, en fait, on est un lien. On est censé être le lien entre la copie et la salle de cinéma. Donc, il faut appeler la salle de cinéma, ou alors, c'est comme le reste. Hein. C'est comme dans la vie, dans l'économie, l'offre et la loi du marché... l'offre et la demande, soit tu appelles, soit ton téléphone il sonne, voilà, donc quand ton téléphone il sonne, c'est qu'il y a du désir autour de l'objet et du produit, et tout va bien, mais sinon, des fois, il faut un peu batailler pour faire exister les films, et moi, je fais tout seul, alors après, c'est pareil, hein, je délègue, j'ai un attaché de presse, il y a quelqu'un qui s'occupe de tous les travaux graphiques, créer une nouvelle affiche, créer une bande-annonce, j'ai une comptable, mais c'est vrai que l'avis du distributeur et des films, c'est faire exister ce film, donc c'est vrai que moi, il y a tout un travail qui est faire connaître le film en amont, donc c'est vrai, le contact avec les institutionnels, proposer le film à des festivals ou des événements, remplir ses dossiers pour le CNC, contacter les salles, contacter la presse, préparer, enfin voilà, il y a toujours un petit calendrier en amont, un rétro-planning à anticiper sur la sortie d'un film. Moi, j'ai essayé depuis le début aussi, je me donne du mal un peu à tout faire. Tu as des maisons de distribution qui vont donner à un journaliste l'écriture d'un dossier de presse ou autre. Et moi, la plupart du temps, j'essaie de le faire moi-même, tu vois. Donc, ça prend beaucoup de temps en plus. Mais c'est un vrai plaisir parce qu'en fait, ça me nourrit sur la connaissance du film. Et c'est un petit plus que j'ai toujours apporté. Mais pareil, où je me redisperse, comme quand je viens vous voir à Bordeaux pour présenter une séance de Wickerman à l'Utopia. Là, tout à l'heure, je vais prendre le train pour aller en Charente-Maritime, à Sainte, présenter une séance Wickerman encore. Et c'est un petit plus. Et on se dit que voilà, c'est une façon de créer du lien avec les salles. Après, les salles, certaines ont leur ciné-club, leur animateur, leur association qui régulièrement fédère un public, anime des séances. Et on n'a pas besoin de moi, hein, tout va bien, ça serait le bonheur. Mais une fois de plus, c'est aussi cette idée de se dire que... ces films-là méritent une attention et comme Jean Dujardin ou José Garcia fait une tournée pour ses films, bah, Marc Collery il accompagne les siens, il est moins connu. Et après, il y a des bonheurs bah, comme ceux d'avoir de temps en temps un vrai réalisateur sous la main. Quand je prépare là, le prochain film de Jean-Baptiste Thoré, qui est un film autour de Michael Cimino, c'est aussi une autre aventure, hein, parce que bah ouais, faut organiser une tournée, et moi, je sais dire oui dans mon planning, mais après, je suis un peu l'intermédiaire.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Justement, on en parlait là, tout à l'heure, donc on a touché du doigt plusieurs films que tu as ramenés un petit peu sur le devant de la scène, donc j'ai trouvé sur ton site Comment voler $1 million de William Wyler, La fille de Ryan de David Lean, qui est un peu un film mis à part dans sa filmographie, dans son gigantisme, La mélodie du bonheur de Robert Wise, Ragtime de Miloš Forman et plus récemment encore The Wicker Man donc de Robin Hardy comme ça que je t'ai connu. En quelques années, tu t'es quand même fait une place de choix. Hein, quand on regarde, c'est quand même c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est pas là, c'est pas des petits films, quoi. C'est pas des films David Lean, c'est quand même un grand. Robert Wise, enfin tout ça, c'est des grands réalisateurs. Je les ai pas tous notés, hein, bien sûr. T'as fait aussi des documentaires, donc avec Jean-Baptiste Torré notamment. Et comment tu choisis les films que tu vas distribuer? Ça part de quoi? Ça part vraiment de j'aime ce film, il faut qu'on le voit. Ou alors il y a quelque chose de réfléchi derrière. J'ai la sensation en parlant avec toi que c'est quand même avant tout de la passion. Hein,
oui, oui, mais, évidemment.
Mais comment ça marche?
Bah, en fait, moi j'ai un peu aussi tendance à dire, tout à l'heure je dis le distributeur c'est un éditeur de films, mais moi j'ai envie de dire qu'en tant que distributeur, on doit être le premier fan et supporter du film. C'est-à-dire que moi je ne me vois pas sortir un film que j'aime pas, ou sortir un film pour le sortir, ou faire un coup, se dire « Ah voilà, c'est les 100 ans d'Yves Montand, faut que je sorte un Yves Montand. Ou voilà, c'est les 40 ans de l'élection de Mitterrand, faut que je sorte un film politique sur cette période-là. » Enfin bon, bref. Ça peut, hein, et je ne critique pas, et c'est toujours bien. Moi, comme je fais à peu près un film par an, je vais l'accompagner longtemps, faut qu'il me plaise, faut qu'il me touche profondément. Et je cherche des fois des idées, et puis des fois, enfin, je pense que ça participe un peu de l'inconscient et puis de ma cinéphilie, j'ai tendance à dire que les films viennent à moi. Après, il faut un peu bousculer les choses. Un film comme Du silence et des ombres, c'est le moteur pour créer Lost Film. Mais en fait, bizarrement, mon premier film, c'est un autre, c'est un copain qui m'en parle, qui l'a vu dans un festival gay et lesbien de Turin, qui me dit « J'ai vu ce truc-là, putain, j'en avais jamais entendu parler. » Je me dis « Ah bah ouais, chouette. » Et je me rends compte que les droits sont libres, on peut tirer une copie, et c'est moins cher, les copies sont moins chères que Du silence et des ombres, et c'est un peu à hasard, tu vois, qui vient à moi.
Ouais.
Et je me dis, bah ouais, le film est génial. Et après, c'est une évidence pour tout le monde. Le plus dur, c'est que ça devienne une évidence pour tout le monde, que le film soit génial.
Ouais.
Et quand je pense à un film, par exemple, comme le plus récent, The Wicker Man, ce film, en fait, j'ai envie de le voir parce que en 2019, ouais, si je dis pas de bêtises, l'été 2019, on commence beaucoup à parler de Midsommar. Moi, j'ai hyper envie de le voir dans les sorties de l'été. Et quand je le découvre, donc Midsommar, deuxième film d'Ari Aster, un film américain.
Produit par A24,
A24. Une belle société de production indépendante qui a vraiment de beaux projets. Et quand je découvre Midsommar, je prends une vraie claque. Et dans ses interviews, Ari Aster, le réalisateur, fait souvent référence à The Wicker Man. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre, j'ai jamais vu ce film-là, j'en ai toujours entendu parler, mais comme plein d'autres films que j'ai pas vus, hein, moi j'ai plein de lacunes dans le cinéma. Et j'essaye de le voir, et je me rends compte qu'il est vraiment invisible, dans tous les sens du terme, qu'il a une carrière chaotique, qui est quasi presque jamais sorti en France, qui a eu un DVD mais qu'il est épuisé. Je regarde un peu sur internet pour me l'acheter, etc. Je vois qu'on ne le trouve pas. Et puis en fait, bêtement, je suis abonné à Canal+, et à la maison, je vais sur MyCanal, et je me rends compte qu'il est disponible. Et donc je le découvre, hein, quelques semaines après. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Vraiment, le film est bizarre, il a un véritable intérêt, personne ne l'a vu. Qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je suis le seul à aimer ça, ou est-ce que je vais pouvoir transformer l'essai et que ça passionne d'autres gens?
Ouais, voilà, c'est ça le questionnement, je pense, quand même, quoi. C'est souvent ça.
Est-ce qu'on fait ça pour rien ou pour d'autres?
Ouais.
Parce qu'en fait, in fine, c'est partager le plus de gens possible. Alors évidemment, dans un monde idéal, pour en vivre, etc. Moi, ça s'amortit, je ne me salarie pas. Mais voilà, si j'étais un vrai distributeur, que j'avais à payer quelqu'un, faudrait que ça marche plus, quoi. Mmh. Là, ça s'équilibre et des fois, ça marche bien. Mais c'est vraiment pas facile. Et surtout, bah là, la première chose, en l'occurrence, c'est un film Studio Canal. Et moi, j'ai jamais travaillé avec eux. Plein d'autres collègues l'ont fait. Et donc, le début de l'histoire, c'est entrer en relation avec eux et qu'ils me disent oui ou merde, et oui, il y a du matériel, on peut le faire, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, on a réussi à le faire. Et ce qui a été assez beau, alors c'est vrai que le film, il aurait dû sortir d'abord en novembre 2020, au moment où on reconfinait.
Ouais.
J'étais prêt pour la sortie, j'avais fait les avant-premières et je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer parce que la presse arrivait, etc. Bon, on a refermé et ce temps-là, je me suis dit, bon, bah, voilà, je serai prêt pour la réouverture. Et c'est vrai qu'à la réouverture, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ce film, il parlait à d'autres gens. Et surtout, ce que je trouve assez beau, alors ce n'est pas toujours le cas de tous les films de patrimoine, mais moi, je vois aussi des fois des passerelles avec notre monde actuel et contemporain. Et je pense que les films résonnent. Il y en a qui résonnent plus que d'autres. Après, je me rends compte que ces films-là, je les choisis, je dis, viennent à moi, mais il me touche personnellement, où il y a des éléments déclencheurs dans ma vie qui me font me tourner vers eux. C'est vrai que, par exemple, un film comme La fille de Ryan, moi, je le connais depuis longtemps. Quand tout à l'heure, je te disais que j'avais travaillé au Max Linder au début des années 90, C'est un film qu'on passait régulièrement, parce que figure-toi, on avait une copie 70 mm qui était stockée chez nous, au Max Linder à l'époque. Et de temps en temps, on faisait des séances privées pour l'équipe ou aussi pour le public quand il y avait des séances de, qui s'appelaient le Max Linder fait sa cinémathèque. Donc, il y avait des doubles programmes comme ça. Mm-hmm. C'était un peu des programmations bouche-trou entre quelques gros films quand des fois, il n'y avait rien. Et puis, il y avait une journée David Lean. Et dans la journée David Lean, tu avais à 14h La fille de Ryan, à 18h Le pont de la rivière Kwai et à 20h Re La fille de Ryan. Donc, je l'ai vu dans des conditions magnifiques. Et ce film, est, je pense qu'il est resté dans mon inconscient comme un film mythique. Et surtout, moi, j'ai un film fétiche, j'en ai plein, hein, mais dans mes cinq doigts de la main du cinéma, il y a Lawrence d'Arabie, ouais. Et que j'adore. Mais je me dis, moi, Lost Film, donc c'est un film Columbia qui existe, qui est restauré, qui est en DVD, en Blu-ray, qui est passé à la télé, qui passe dans les cinémathèques régulièrement. Mais je me dis, je ne vais pas le ressortir. Le film ne mérite pas, il existe déjà. Et puis en fait, je sais comment je suis venu à La fille de Ryan, c'est que par exemple, j'avais découvert un film que j'aimais beaucoup, beaucoup, de John Schlesinger, qui s'appelle Loin de la foule déchaînée,
ouais.
Qui est l'adaptation...
Il y a eu un remake d'ailleurs, je crois. De ce
voilà,
film.
Il y a eu un remake ouais. un peu plus moderne et un peu raté, mais même si le casting fonctionnait bien. Ouais. Bref, ce roman-là, d'un seul coup... Et cette fresque, cette histoire d'une femme prisonnière entre... Enfin, prisonnière. Non, qui est dans la tourmente de trois hommes. Je me dis, ah, ça serait intéressant et tout, mais le film est vraiment bizarre. Et je me dis, tiens, c'est vraiment le chaînon manquant entre La fille de Ryan et La leçon de piano. Et en fait, ne faisant pas ce film-là, que je trouve compliqué, qui est long, et ben en fait, j'en fais un autre qui est encore plus long et qui est encore une histoire d'amour torturée et d'adultère entre une femme et deux hommes, Robert Mitchum et donc Sarah Miles. Et encore une adaptation, parce que c'est une adaptation un peu déguisée de Madame Bovary.
Et c'est un film en plus qui, dans la filmographie, j'en profite là pour placer ça, de Schlesinger, a une valeur particulière parce que c'est un peu le film qui a failli lui coûter sa carrière. Et ouais. C'est Midnight Cowboy qui rattrape le
coup. C'est le film de sa transition parce qu'en fait, il a fait trois premiers films anglais qui avaient ressorti en salle et en DVD Tamassa, qui sont vraiment des pépites. Et ça, c'est un peu l'entre-deux parce que c'est une super fresque, alors qu'il y a encore. En Angleterre, mais produit par un grand studio, la MGM. Et le film d'après, en effet, c'est Midnight Cowboy, ouais. Qui n'a rien à voir.
Non,
où là, il est en fond dans le contemporain.
L'ambiance n'est pas du tout la même.
C'est un film qui va marquer les esprits, qui lui met le pied à l'étrier sur autre chose. Quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que, tu vois, en fait, je découvre Loin de la foule déchaînée. Je me dis, alors j'y vais pas. Je sais qu'on peut tirer des copies, et le film est long, c'est un peu cher. Alors on peut tirer des copies, mais là on est déjà en numérique à l'époque, mm-hmm. Donc est-ce qu'il n'y a pas tout à fait le matériel pour. Et je propose à quelques salles que je connais bien ou des amis de me donner leur avis. C'est un peu mitigé, etc. Et en fait, tout ça mûrit et je me dis, mais oui, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est La fille de Ryan. Et en fait, là, La fille de Ryan, d'un seul coup, tu te rends compte que oui, ça parle à des gens. J'ai la chance, en plus, de rentrer en contact avec la comédienne Sarah Miles. Elle vient en France au Festival de La Rochelle. C'était un de mes plus beaux souvenirs de distributeur.
Ah, c'est incroyable.
On va à La Rochelle. Alors, c'est une dame qui était déjà un petit peu âgée, qui avait plus de 70 ans. Et qui voyage pas du tout de sa campagne, qui est vraiment reclus, et je lui fais traverser. elle veut pas prendre l'avion, bref, l'Eurostar, tout ça. Et je lui fais traverser la Manche, et elle fait une projection à La Rochelle, une autre au Champeau à Paris, une autre au Grand Action en 3-4 jours.
Wow.
Et c'était un super beau moment quoi, de vivre ça. Et après, tu te rends compte qu'en effet, tu fais pas ça pour rien parce que y a des salles qui ont envie de programmer, il y a plein de presse qui tombe et que tu dis voilà et le public suit et le film enfin moi je sais que régulièrement il y a des gens qui disent ah super merci d'avoir proposé ce
film
là.
Oui la fille de Ryan c'est un film aussi qui est très particulier dans la filmo de David Lean aussi.
Ouais qui est maudit en fait.
Ouais, un peu.
Et c'est vrai que quand on rebondit sur la question de départ j'ai l'envie, les films ils viennent à moi, on peut tirer des points communs entre tous les films que j'ai sortis et l'autre c'est aussi de vouloir absolument les remettre en lumière et de les réévaluer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des classiques indémodables et tout de suite identifiés dans l'histoire du cinéma et des réalisateurs qui sont au Panthéon. Et il y en a d'autres où il faut un peu plus bagarrer, c'est moins évident. et il y a toujours l'envie voilà, de ça, un peu de combattre cette petite injustice de l'histoire. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est vrai que quand par exemple je propose un film comme Seconds, donc Seconds, l'opération diabolique, le film de Frankenheimer avec Rock Hudson, moi je le découvre par hasard sur Paramount Channel, sur le câble. Le film est très noir, il est en noir et blanc, il est très noir dans ce que ça raconte. C'est un film qui lance sur le fantastique, la politique fiction, mais une histoire très torturée quoi, que ça raconte. Mmh. Mais je me dis, bah oui, ça peut parler à plein de gens. C'est-à-dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui décide de se donner une seconde chance, de s'offrir une nouvelle vie. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça pourrait être un épisode de la cinquième dimension. Il décide, via une société un peu, une organisation un peu secrète, il se paye une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il met en scène un accident, donc pour sa famille, il meurt, et on lui offre un nouveau visage, une nouvelle vie de rêve, et il se réveille sous les traits de Rock Hudson, qui à l'époque est la star hollywoodienne, l'homme que tout le monde veut épouser aux États-Unis. Mais voilà, c'est un film très très noir, mais qui, je pense, peut résonner. Et en fait, bah pareil, c'est une vraie redécouverte pour plein de gens en termes de presse. Il y a une base de gens qui connaissent le film, j'ai envie de dire comme Wickerman, qui est lié un peu à ce réseau ou cette communauté autour du fantastique. Et il y a tous les autres qui le redécouvrent. Et ça c'est vraiment plaisant quand on transforme cet essai-là.
Alors, on parle depuis le début là, de l'interview, on parle beaucoup, beaucoup de salles de cinéma. J'ai une petite idée en discutant avec toi, mais comment tu te positionnes toi par rapport à tout ce débat, salle, pas salle, plateforme, DVD? Moi j'aimerais savoir un petit peu comment tu vois les choses par rapport à ça, parce qu'en plus c'est sur fond évidemment, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps, c'est ce que je dis tout le temps dans mes interviews, on nous parle de crise du cinéma. Bon, moi je crois que j'ai jamais connu un moment où il n'y avait pas de crise du cinéma. Depuis que je vais au cinéma, j'entends parler de la crise du cinéma. Quelle est ta position là-dessus? Comment tu vois ça? Comment tu envisages les choses?
Je pense que les choses se sont vraiment accélérées et compliquées depuis quelques années. Là, on est dans cette situation post-Covid, plein de mois d'arrêt, de fermeture, où on ne peut pas faire son métier pour plein de gens, où la reprise de ce mai 2021, elle est effective, mais elle a pris du temps, mais elle n'est pas bien amorcée. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup de gens ne retournent pas au cinéma et préfèrent autre chose, je sais pas quoi d'autre, ou se sont refermés complètement sur une vie culturelle ou sociale. Je pense que tout est expliqué par la peur du masque, de la maladie, ou plutôt avoir un masque pour aller au spectacle, au cinéma, ou le pass sanitaire, ça ne suffit pas, parce que ça n'empêche pas les gens de sortir ou de se déplacer ou d'aller au restaurant ou autre. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui s'amorce mal. Donc ça, c'est la période de maintenant. Mais avant même cette période-là, on est dans un moment un peu où tout est exacerbé et paradoxal sur ce qu'on parlait tout à l'heure sur aussi notre changement, passer du 35 mm au numérique. C'est-à-dire qu'on est dans un sentiment maintenant, ou même pour toute une génération, ma fille ou d'autres, on a tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'un film, on va le chercher sur une plateforme ou sur Internet si on peut se l'acheter, ou si on peut le récupérer, le télécharger légalement. Et donc, il faut tout de suite. Je pense que non, parce que y a des choses qui sont disponibles, pas disponibles. Et puis, il y en a qui essayent de bien faire leur travail. Il y a une économie, un écosystème, il y a des règles. Moi, je parle à mon niveau, je ne sais pas tout sur tout, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai tout appris par moi-même en termes de cinéma et de distribution. Et j'ai l'impression que les plateformes, en effet, bouleversent tout ça, rendent possible la culture, parce qu'au bout d'un moment, se positionner, découvrir des images, une autre écriture. Alors maintenant aussi, il y a l'hystérie autour des séries télévisées. Mais donc ça existait déjà. Je veux dire, avant qu'arrive Netflix, puisqu'on parle tout le temps de Netflix, il y avait d'autres séries qu'on avait envie de suivre, et légendaires. Sauf que maintenant, en effet, on a tout, il faut que ça arrive. Et puis ça arrive à grand renfort de communication, avec une force de frappe. Ça devient incontournable. Je veux dire, il y a deux semaines, on nous parlait tous de cette série coréenne. Voilà, maintenant ça y est, c'est fini. Et qu'est-ce qui reste? J'ai envie de dire pas grand-chose. Et dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va promouvoir? J'en sais rien. Donc il va falloir faire En Italie, ils vont faire le même type de série sur des gens qui veulent survivre à un truc en France. Et en fait, on répète des schémas, mais c'est l'histoire, j'ai envie de dire, aussi du cinéma qui a créé des stars, qui avaient des stars sous contrat, qui répétaient les mêmes schémas, les mêmes films, qui faisaient des suites. Hollywood continue de le faire. Mais là, on est dans un moment où je pense qu'il faudrait un peu savoir ce qu'on a envie de promouvoir et de montrer. Et quand tout à l'heure, je disais que les choses se sont compliquées, c'est que avec le numérique, maintenant, ouais, c'est pareil. Je veux dire, une copie, elle peut être partout. Avant, il ne faut pas oublier, moi, j'avais 3 copies 35 mm. La même journée, je pouvais avoir que 3 cinémas seulement. Maintenant, un film peut être partout. Il suffit que ça passe dans un tuyau, que ça arrive. La copie, elle arrive en fichier dématérialisé dans toutes les salles de France. Et si toutes les salles de France le veulent et que le distributeur le donne, et je le comprends, je veux dire, il y a un moment où on a envie tous en même temps de voir Kaamelott, OSS, Blade Runner, James Bond, voilà, ou prochainement Matrix ou West Side Story. Mais est-ce que toutes les salles de cinéma de France, selon leur profil, ce qu'elles ont véhiculé, ce qu'elles ont envie de montrer, les spectateurs qu'elles ont, la population qu'elles ont, doivent montrer le même film? Je pense pas. Et après, voilà, comme je disais, on est distribué, on n'est pas né sous la même étoile. C'est pareil pour une salle de cinéma. Une salle de cinéma, elle a 1, 2, 5 écrans. Une ville, elle a un multiplex, une salle à essai, une salle militante, etc. Et vous, c'est vrai qu'à Bordeaux, vous avez la chance avec une salle comme l'Utopia à Bordeaux, qui a un panel de films très large, donc vous êtes gâtés, quoi. Mais c'est pareil, eux, ils ont un casse-tête parce que des films, il faut les choisir. Et puis, il faut qu'ils puissent aussi, dans une grille, ils ont, je crois, 5 salles. Il faut alterner, quoi.
Ouais. Et clairement, moment, ils font des choix et ils sont cette salle militante dont tu parles, ils sont très, très liés au
C'est leur ADN, hein, ils savent le faire. Moi, il y a des fois, ils prennent mes films et puis des fois, ils me disent non. Moi, j'avais proposé un film que j'aimais beaucoup, Stella, avec Mila Mercouri, un film de Michael Kakoyanis, l'histoire d'une femme rebelle qui décide de ce qu'elle fait de sa vie. Enfin, vraiment un film sur l'émancipation féminine. Maintenant, on ne parle que de ça. Moi, j'aurais adoré à l'époque qui passe dans plein de salles. Quand Utopia me dit non, ils n'aiment pas, ils ne le prennent pas, et je trouve ça normal. Mmh. Mais maintenant, on est aussi dans un sentiment où les films, on les prend sans les voir, tout le monde le veut, des distributeurs ont une force de frappe, ou plein d'autres films à proposer derrière, donc il y a une espèce de chantage comme ça, de course à l'échalote, prends mon film, tu me prends ma palme d'or, même si c'est un film thaïlandais, que personne n'ira voir, et puis tu me fais quand même 12 séances dans la semaine, et il fait 3 heures, personne ne viendra, mais en fait, donc c'est des séances à moitié pleines ou quasi vides, donc qui sont peut-être prises à d'autres films qui n'existent pas. Et on est dans ce rapport de force qui est vraiment déjà préexistant avant le Covid, et qui maintenant est encore plus paradoxal, puisque on vient de réouvrir les salles, les spectateurs ne sont pas massivement ou aussi massivement au rendez-vous, et les distributeurs donc s'y retrouvent pas tous, hein. Il y a, l'année dernière, on parlait de films qui ne sortent pas ou qui attendent pour sortir, et puis je veux dire, un an après, Aline sort, ou le film de Nicole Garcia très récemment, donc, voilà. Mais est-ce qu'il rencontre vraiment son public? Je ne sais pas. Mais selon les distributeurs, ils arrivent quand même à l'imposer à plein de salles. Des fois, imposer trop de séances, à se dire, je vais demander 2 fois plus des séances, parce que de toute façon, je fais déjà, moi, 2 fois moins d'entrées. Mais ouais, pendant ce temps-là, ils prennent encore plus d'espace et d'oxygène pour les autres films. Et ouais, moi, je pense que dans ce moment-là, un peu paradoxal, il faudrait réguler, se poser des vraies questions, améliorer ça. Et tout ça, c'est un peu de la politique, hein. C'est-à-dire que c'est de l'économie, de la politique, c'est-à-dire qu'on est dans de l'art, de l'industrie, et comment on régule tout ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à amorcer qui ne s'amorce pas, et puis au milieu de tout ça, des choses un peu perverses autour de l'hégémonie de Netflix. On s'est tous posé la question, est-ce que les spectateurs vont revenir au cinéma alors qu'ils avaient des films sans arrêt à la télé et sur Netflix? Et même Netflix propose maintenant un peu de patrimoine. Mm-hmm. Mais c'est bien, hein. Je veux dire, moi, il y a des fois, ça m'arrive. Mon épouse et ma fille ont essayé Netflix à un moment pour voir découvrir des séries. Moi, j'y vais rarement. Je veux dire, même quelqu'un, t'imagines, il y a un mois, comme Danny Boone, je veux dire, qui a quand même eu le plus gros succès du cinéma avec les Ch'tis, on aime ou on n'aime pas. Quelqu'un qui est quand même toujours présent sur les plateaux dès qu'il fait un film, comme réalisateur, comme comédien, qui fait sa production pour Netflix. Là.
Ouais, ça t'évoque quoi, ça, justement?
Je me dis, très bien, il le fait. Après, j'ai vu le film, c'est pas très bien. Donc, en fait, on est toujours à la même chose. C'est-à-dire, les films, ils ont une espèce de valeur qui est très personnelle. Moi, c'est subjectif, je trouve ça pas très bien. Mais de ce que je vois majoritairement dans les productions Netflix, ou ce que j'ai pu voir, parce que je vois pas tout, c'est assez rare que les films soient vraiment de grande qualité. On nous parle aussi d'auteurs qui d'un seul coup trouvent leur bonheur en étant produits et diffusés sur Netflix. Qu'on nous parle de Scorsese, Cuaron ou autre, d'accord, mais enfin c'est des gens qui connaissent plus que quiconque d'autre ce que c'est que la valeur d'un film, de les produire, les faire découvrir, les montrer en salle. Donc moi je pense que sur le papier et par définition, ils savent qu'ils se privent de la salle. Nous dire oui, mais ça sort aux États-Unis, mais dans quel état sont les productions, les maisons de production américaines en ce moment et les systèmes d'exploitation, les salles de cinéma aux États-Unis. Moi je veux dire, quand on me parle d'un festival Netflix en salle, je me dis mais oui, mais pas maintenant, attendez. En fait je veux dire, faut une fois de plus faire les choses dans un cadre normal et général. Netflix arrive avec ses gros sabots et toute sa puissance en proposant, sous couvert de montrer des auteurs, que ce soit Jane Campion ou d'autres, dans la salle du cinéma parce qu'elles méritent, oui, mais sur le papier, ils ont signé pour être diffusés sur ton ordinateur, au mieux sur ton vidéoprojecteur dans ta maison. Oui, c'est en numérique, donc en fait, à partir du moment où tout est en numérique, tout est possible. Bah, j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, en France, pour montrer un film en salle, moi, c'est ce que j'ai appris bêtement depuis 2009. Il faut qu'il y ait un distributeur qui discute avec un exploitant. Je n'ai pas le sentiment que Netflix soit un distributeur. Netflix, ouais. C'est autre chose. Mais c'est pas un combat d'arrière-garde et de ne pas être en phase avec la période. C'est juste se poser les questions avant que des choses plus générales soient devenues des évidences. Et moi, je pense qu'en fait, c'est en effet une ère nouvelle. Il y a eu plein d'air comme ça dans le cinéma, parce qu'aussi, l'autre argument, c'est dire « Ah oui, mais comme toi à l'instant, c'est-à-dire on parle de crise du cinéma, et là, il y aurait une nouvelle crise. » Mais en fait, ça ne fait que je vois plus de choses néfastes. Oui, ok, on produit des films, on les montre, donc ça continue. Mais ça continue, une fois de plus, pour toi et moi, chez toi. Pas chez moi, mais pas devant une salle pour tout le monde. Devant une salle pour tout le monde, c'est ce que continue de faire une maison de production qui va financer un film, le finir, le montrer dans un festival, un distributeur le prend en charge et le monte dans une salle de cinéma. Netflix, en fait, là-dedans, je ne vois pas où est sa place. Producteur, je ne suis pas tout à fait sûr, ils font un chèque. Et distributeur, non, c'est un grand robinet. Donc je pense être un peu concret là-dessus, c'est important. Et c'est plus que jamais en ce moment, vu les difficultés, foncer là-dedans et être ferme sur cette valeur-là, ça devrait être une évidence pour tout le monde. Et je ne critique pas le choix de certaines salles de vouloir le faire. Pour moi, c'est une aberration. C'est vraiment un choix politique. Je veux dire, en ce moment, on est en pleine période électorale. Je veux dire, c'est comme prendre une position sur n'importe quoi d'autre. Pour moi, c'est clair et net. Et je suis très content parce qu'en plus, il y a plein de combats à mener, justement. Et en ce moment, on parle aussi beaucoup de la chronologie des médias. Et Netflix, donc maintenant, il y a aussi, comme ils sont incontournables, qui produisent dans chaque pays du monde, parce que c'est leur intérêt aussi, et qu'ils ont des productions en France. OK, ils font travailler des gens et ils diffusent après, pour la France, leur production. Mais ils arrivent et ils ne sont pas dans le système qui était quand même un peu régulé depuis plusieurs années et qui, dès la création de Canal+, qui est intrinsèque à Canal+, de participer, d'être diffuseur à la télé de films et d'autres contenus, mais aussi contributeurs à la production du cinéma.
Alors justement, est-ce que l'establishment français a pas loupé le train, quoi ?
Ben, il est en train d'essayer de le rattraper ou de l'imposer, parce que c'est pareil. Je veux dire, il y a 2 ans, tu voulais joindre quelqu'un de Netflix France, ben non, il y avait un nom, un PDG, mais c'est
ouais.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses un peu énormes et tentaculaires. Une fois de plus, c'est pareil, c'est pas que c'est le mal absolu, c'est juste que moi, j'y vois plus de mal que de bien.
Ouais.
Donc, Et j'ai envie de me poser des questions plutôt que dire amen à tout. Et de même que je me pose les mêmes questions sur le reste. Je pense qu'il y a un moment où il faut un peu... Alors ça existe, hein, il y a des réunions, il y a plein de travaux qui sont menés. Et puis il y a tous les différents corps de métier qui sont dans des discussions avec le CNC et le ministère de la Culture ou d'autres pour un peu établir tout ça. Mais c'est encore en cours. Et je pense que c'est très maladroit dans cette période très difficile où les mêmes salles de cinéma se posent la question de « Est-ce que mes spectateurs vont revenir dans ma salle pour voir les films que je propose, ma programmation ?» alors qu'ils se sont beaucoup abonnés à Netflix où ils ont pratiqué autrement le cinéma, d'ouvrir une porte à un festival Netflix, quel que soit le réalisateur.
Ok. Bah, c'est plutôt clair. est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Que dire de plus ? Non, moi je reste persuadé qu'il faut se battre, quoi, qu'il y a des combats à mener pour que tous les cinémas existent. Moi, avec Lost Film, je suis tout petit, mais je suis au milieu de collègues que j'apprécie et qui étaient aussi dans un syndicat de distributeurs. Donc moi, c'est vrai que j'ai rejoint un syndicat qui est le SDI, qui est un petit syndicat. Hein, et puis après, il y a des gens, c'est comme partout, hein, qui ne sont pas syndiqués. Donc il y a le SDI, il y a le DIR qui réunit des distributeurs français indépendants beaucoup plus gros. Et puis il y a le FNEF qui est une fédération qui réunit à la fois des majors françaises et américaines et des plus petits. Mais donc on fait tous le même métier, mais on n'a pas les mêmes intérêts et donc on n'a pas les mêmes combats et on n'a pas la même hégémonie. Donc nous, tout petits au sein du SDI, c'est vrai que pendant cette période de refermeture et de confinement, on a voulu mener des combats pour que justement les gens soient préservés, que tous les distributeurs et les films puissent exister. Et là, on se rend compte que vraiment les écarts se creusent dans nos recettes et dans la façon de pouvoir faire exister nos films. Et je pense qu'en fait, ça dépasse notre cap parce qu'en fait, le cinéma, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est des salles, des distributeurs, des producteurs, des artistes, la presse. Je veux dire, la presse cinéma aussi, je veux dire, qui était à l'arrêt, qui d'un seul coup... donc plein de gens qui se remettent en questions qui changent de voie, des sociétés qui se restructurent, qui ont certes eu aussi des fonds de soutien, mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est que les choses reprennent et qu'on vive de nos métiers et qu'on ne soit pas amené sans arrêt quémander d'autres aides, remplir d'autres dossiers, plutôt que de passer du temps sur préparer nos sorties. Mmh. Et après, faut, je pense, remettre un peu de raison dans nos métiers, parce qu'il y a un moment, voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve. Sinon, je pense qu'en effet, on formate un peu des programmations dans les salles, les gens vont voir les mêmes films, donc l'intérêt, la curiosité n'est plus la même. Et puis d'un seul coup, en effet, si tu proposes un film qui est un ovni, mais pourquoi les gens d'un seul coup, ils accepteraient une belle proposition ? Moi, je suis persuadé qu'un film comme Annette, que j'adore, qui est pour moi le plus beau film français de l'année, et même le plus beau film tout court, de Léos Carax, je veux dire, nos spectateurs sont plus habitués à autant d'émotion et de travail dans un film. C'est mon avis très subjectif et personnel, mais c'est une proposition qui est tellement forte. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une histoire d'amour qui tourne mal, un couple, un enfant, et un film musical. Quand on découvre ça, ouais, faut s'accrocher. Et si des plus jeunes spectateurs, ils n'ont pas cette culture-là de ce que c'est que le cinéma, comment on fabrique... Des trucages, des effets spéciaux et qu'on les habitue à autre chose que pour un effet spécial c'est un Marvel, c'est aussi ce qui peut se passer pour la scène de la tempête sur le bateau dans Annette. Et puis là pareil, tu vois, moi j'ai sorti beaucoup de films musicaux, quand tu vois le travail, la conception du film autour de l'image et du son, c'est ça, le cinéma c'est ça, l'essence du cinéma c'est ça, comment tu mêles, tu racontes une histoire avec des images et du son, et Annette ça n'est que ça. Sauf qu'en effet, je pense que pour un spectateur lambda, ça déconcerte.
Ouais.
Et c'est bien que ça continue d'exister, qu'il y en ait plein d'autres. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Après, moi, j'ai des goûts, tu vois, très classiques. Un film, quand je te dis que j'adore Laurence d'Arabie, on est très loin de la complexité d'Annette. Mais je pense qu'enfin, voilà, il faut toujours penser... à se dire que c'est possible, et j'ai un peu peur que ce champ des possibles il se réduise et qu'il soit vraiment dicté encore plus que jamais par l'économie.
On croise les doigts pour la suite alors.
Ouais.
Et puis bonne chance et longue vie à Lost Film.
Merci.
Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé.
Pas de problème, avec et plaisir. Puis, peut-être bientôt à Bordeaux avec Jean-Baptiste Caoret et Michael Cimino.
Et j'espère vraiment. Merci Marc.
Merci.
Bonne journée.
C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Édouard Wasselin, et produit par Adrien Larousé, mon talentueux et patient compère pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du Vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinécure classique. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !